Le média qui écoute.
J'ai découvert la maladie de mon épouse qui était en ce qu'on appelle en APP, en aphasie progressive primaire. C'est-à-dire c'est une perte progressive de la mémoire des mots. Elle était enseignante et moi aussi. C'était une femme qui était brillante dans les échanges, vivacité d'esprit, etc. et qui a peu à peu été confronté à cette problématique-là. Et donc, c'est des phénomènes qui apparaissaient petit à petit, d'où la difficulté de les percevoir tout de suite en tant que problème de maladie. Parce qu'elle était capable de faire des stratégies pour qu'on ne s'en rende pas compte. Donc, c'est déjà au départ... La difficulté, et je m'en rends compte ici à Alzheimer 54, en étant en échange avec les autres, la difficulté, c'est de prendre conscience qu'il y a un problème. À la fois pour l'aider et pour l'aider. Moi, au départ, je n'ai pas percuté certains phénomènes qui auraient pu me mettre la puce à l'oreille par manque d'informations. Parce que je ne connaissais pas le problème du tout. Et aussi, au fur et à mesure, le fait de me dire « c'est pas trop grave ». Quelque part, ne pas aller dans une observation clinique rigoureuse, mais être un peu, beaucoup parfois dans le déni de ce qui était en train de se passer. Que comme une maladie, ça allait revenir à un état normal, etc. Ce qui n'est pas le cas. Ces maladies dégénératives, j'en connais pas beaucoup qui vont dans l'autre sens, c'est-à-dire qui reconstruisent des neurones et puis qui reconstruisent une oralité normale, voilà. Et donc, il m'a fallu aussi, à moi en tant qu'aidant, prendre conscience d'un certain nombre de choses d'état qui ont pas beaucoup impacté la vie quotidienne au départ. Jusqu'à ce qu'il y ait impossibilité pour moi de garder mon épouse à la maison et d'être obligé de la placer dans une institution qui est spécialisée là-dedans. Donc, elle est actuellement, ce qu'on appelle dans un service d'unité de soins longue durée, où les gens ne sont plus du tout autonomes et où les gens sont en général alités ou en fauteuil roulant. Il n'y a quasiment plus d'activité, il n'y a plus d'interactivité. Ça m'a demandé une réadaptation continuelle. Donc c'est une maladie qui a démarré en 2015, qui n'a pas démarré, qui est devenue visible en 2015. Donc j'ai accompagné mon épouse chez moi pendant 10 ans. Et au début... Je pensais pouvoir tout gérer, donc tout ce qui est vie quotidienne. Puis au fur et à mesure de la perte d'autonomie, ça devenait de plus en plus compliqué pour moi. C'est pas pour autant que j'ai changé les choses. Donc cette évolution a fait qu'il a fallu aussi que je m'adapte. Je dirais que ce que je vois maintenant avec le vécu que j'ai, et avec les groupes de parole auxquels je participe, c'est l'une des grandes difficultés des aidants, c'est à chaque fois de trouver de nouveaux repères pour équilibrer leur quotidien. Parce que ça change, la maladie évolue, elle va dans le sens de la complication, et en tant qu'aidant, j'ai toujours eu besoin de faire le point pour pouvoir retrouver un équilibre dans la nouvelle situation. Y compris lorsqu'elle a été placée au mois d'avril, après un épisode très très violent de grippe A, et avec un état comateux pendant 10 jours, etc., en CHU. Et finalement, maintenant, elle est dans un centre où j'ai le sentiment qu'elle est rassurée d'être entourée, parce que c'est un cadre quasi hospitalier. Ce n'est pas un EHPAD, étant donné qu'il y a des soins toute la journée. Il y a une organisation, une mise en place du service qui correspond à un service plus hospitalier qu'EHPAD. C'est aussi rassurant, c'était rassurant pour moi, de la voir être calme, ne pas avoir de douleur. C'est la chose importante aussi pour le responsable du service. La première chose, c'est être aux aguets, voir si elle vit des douleurs, des souffrances ou pas. Des douleurs plutôt que des souffrances. Et donc là, apparemment, non. Ça a donné une autre organisation. Dans le sens où, quand je la vois, je me consacre entièrement à elle. Alors que quand ma femme était à la maison, entre les courses, le ménage, le jardin, toutes les occupations, l'administratif, faire les repas, etc., j'avais l'impression que le temps que je lui accordais, c'était souvent un temps où j'étais fatigué. Et maintenant, ce n'est plus le cas. Donc, il y a un constat, je dirais, en sachant ce que je sais maintenant, peut-être que j'aurais fait autrement avant, plus tôt. Mais le problème, c'est qu'il y a l'affect, il y a les sentiments, il y a les émotions qui ne sont ni écrites dans les lois, ni écrites dans les thèses de ces chaires universitaires qui parlent, c'est pour ça que je posais la question, avez-vous déjà accompagné, qui parlent de pratiques qu'ils n'ont pas vécues. C'est-à-dire, entre l'étude d'un cas et la pratique d'un cas, on est aussi éloigné que Mars de Jupiter. Et donc, c'est un peu la difficulté de savoir comment je vais rendre ça. Je prends un exemple simple. Hier, j'ai discuté avec un gériatre qui a accompagné ma femme pendant 9 ans. Et quand la première fois que je suis arrivé, il avait bien des préceptes très... voilà, on a discuté, bon, ça s'est très bien passé. Et la première fois que je me suis rendu compte qu'il n'était plus là en tant que spécialiste, mais en tant qu'oreille, c'est lorsqu'il m'a avoué que sa maman venait d'avoir des problèmes. Et le discours et l'écoute ont changé. Et je l'ai revu hier. J'ai trouvé intéressant de voir, parce que c'est un homme extrêmement honnête, extrêmement modeste, de voir qu'il a été capable de me donner ses limites. C'est très compliqué quand on est de l'autre côté de la table, en tant que spécialiste, et en n'ayant jamais vécu ça, d'être vraiment conscient des limites. Les limites, parce que ces limites-là, elles se manifestent dans le temps, la patience de rester pendant 2 heures sans rien faire à côté de quelqu'un, en sachant que juste le geste, un geste d'autonomie normale, c'est-à-dire de toucher, va être plus efficace que tout ce que je vais pouvoir lui raconter, ou le regard. Et je me rends bien compte aujourd'hui que les gens qui n'ont pas pratiqué ça ne sont pas dans cette notion de temps qu'il faut oublier. Et c'est très compliqué aujourd'hui d'oublier le temps dans la société dans laquelle nous vivons. Et effectivement, je trouve qu'aujourd'hui, quand je suis avec ma femme, je prends le temps. Et du coup, il y a une relation qualitative qui s'est développée dans le regard. En sachant qu'il y a des jours où elle ne me reconnaît pas, elle ne sait pas qui je suis. Mais le regard et la façon d'être dans le regard et d'être soi est plus important dans ce que je pratique avec elle que tout le reste. Et ce chemin que j'ai fait avec ma femme a été un chemin très riche d'enseignement pour moi. J'ai plus appris avec cette expérience-là qu'avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de livres que j'ai pu lire, mais qui ne m'ont jamais attrapé aux tripes. Ça a toujours été des considérations intellectuelles, mentales, qui font abstraction d'une pratique dans laquelle il y a les angoisses, l'ennui, l'attente à n'en pas finir, la répétition constante de la même gestuelle en pensant que l'autre va pouvoir l'intégrer, mais dans le temps. Et aucun écrit n'en rend ça. Et puis, je me suis rendu compte aussi que dans l'expérience que j'ai vécue, elle n'est pas transmissible. Mais elle me permet d'affiner mon écoute par rapport aux gens qui vivent le chemin, mais peut-être un peu plus en amont. Et je trouve que c'est une très grande richesse. Mais pas une richesse pour la tête, une richesse pour le cœur. Et je dirais même que quand je vois des gens démarrer à Alzheimer 54, au fur et à mesure de leur progression, il y a vraiment quelque chose qui se passe chez eux, à l'intérieur d'eux, dont j'ai conscience que ça s'est aussi produit et ça continue à se produire chez moi. Il y a un changement de perspective. On n'est plus du tout dans la théorie, on n'est plus du tout dans le mental, on est vraiment dans un échange de cœur à cœur où je suis vrai, où la personne s'en rend compte, voilà, que je ne le suis pas. Et je trouve que je ne suis pas triste de vivre cette expérience-là. Loin de là, je ne dis pas que c'est facile. C'est parfois très difficile, affectivement et émotionnellement. Lorsque je quitte mon épouse après 3 ou 4 heures et qu'elle me regarde comme un enfant peut regarder ses parents sur lequel il gare parce qu'ils s'en vont, je suis profondément impacté et je dois vivre avec ça. En sachant qu'elle, par expérience, au bout de 30 secondes, si elle voit quelqu'un d'autre, elle m'a déjà oublié. Mais ça, c'est elle. Moi, je vis avec ce regard-là. Et je dois trouver un équilibre par rapport à ce que je vis là-dedans. Mais je trouve que c'est un très beau travail, une très belle expérience. Aujourd'hui, le monde qui m'entoure essaye de me faciliter la tâche dans tout. Et je me rends compte que ça ne me nourrit en rien, en fait. Ce qui me nourrit, c'est ce regard avec lequel je dois vivre et trouver un nouvel équilibre. Et le rayonnement de son regard à elle quand j'arrive, c'est ce qui me nourrit. Tout le reste n'est pas inutile, mais est devenu largement accessoire. Et je crois bien que dans cette expérience-là, je y trouve une beauté quasi immuable. Cet aspect-là de se sentir au service total de l'autre, quelque part, d'être là-dedans, il y a peut-être une limite à trouver. Ce qui fait d'ailleurs la problématique de l'aidant. Beaucoup d'aidants partent avant les aider. Parce qu'ils sont dans une notion de service sans limite. Le rapport affectif est tellement fort dans l'engagement qu'il n'y a plus le respect de son propre corps. Et je ne suis pas sûr que ce soit juste. Je ne suis pas un démiurge, je ne vais pas guérir mon épouse. Je ne peux pas m'installer dans un rapport de puissance et de pouvoir avec elle. Si je suis dans un rapport d'amour profond avec elle, ce n'est pas pour la dominer, ce n'est pas pour vouloir la guérir. J'ai eu l'expérience d'une maman qui a essayé de guérir mon père pendant 6 ans, jour et nuit, qui a échoué. Et le jour où elle a fait le constat, elle a chuté dans un Alzheimer profond. On est là dans des choses compliquées, mais Je pense que l'énergie universelle qui nous anime, cette vie qui nous anime, elle a, pour moi, une cohérence qui dépasse l'entendement de notre cerveau individuel. Et je pense qu'il est important pour moi de pouvoir me respecter tout en étant dans l'aide à l'autre. Et j'ai le sentiment que quand je me respecte plus, je suis plus juste dans la relation. Je m'en rends compte aujourd'hui. Pendant longtemps, j'ai pensé que j'arriverais à tout gérer. Et franchement, je pense qu'il y avait une part d'orgueil de ma part. De ne pas lâcher prise, vraiment. De ne pas faire confiance à d'autres pour prendre le relais. Et je me rends compte aujourd'hui, après un épisode très très violent dans lequel j'ai cru qu'elle allait mourir dans mes bras et que moi peut-être que j'allais mourir avec elle parce que j'ai aussi des problèmes cardiaques, que merci à la vie de m'avoir fait prendre conscience à ce moment-là que j'étais dans le trop, et le trop c'est faux. Et du coup, j'ai accepté cette leçon de vie, et j'ai dit « il faut que je lâche ». Ça a été compliqué, effectivement. J'ai mis un certain nombre de semaines à accepter ça. Ça s'est fait par étapes, pas fait d'un coup. Et aujourd'hui, je me rends compte que quand je vais voir mon épouse, je vais la voir en étant moi-même beaucoup plus épanoui et que dans ces instants de présence et d'échange qu'on a dans le regard, il y a quelque chose d'extrêmement puissant qui passe et il n'y a aucune raison que je culpabilise de ne pas être tout le temps là. Cette notion de culpabilisation, je ne vais pas enfoncer le clou de la culpabilisation judéo-chrétienne, c'est peut-être une problématique qui existe, mais enfin, je ne veux pas rentrer là-dedans. Mais en tout cas, très concrètement, comme pour un enfant, je me sentais coupable de ne pas être là. Et je me dis, mais non, elle vit des choses importantes avec d'autres et dans les relations de couple, c'est souvent un problème. De pouvoir lâcher l'autre pour qu'il puisse vivre des choses en dehors de moi, qui ne m'appartiennent pas, que je ne peux pas contrôler, dont je n'ai aucune idée. La nuit, je ne sais pas ce qui se passe. Quand on s'occupe d'elle la nuit, je ne suis pas là, etc. Intérieurement, j'ai été obligé de faire un cheminement de démontage, quelque part de cette prise de pouvoir quand même, hein, dans le couple, pour moi. Il y a aussi ça. Et de lâcher ça pour rendre les choses possibles. Et je m'en trouve très bien. Je crois qu'une vraie aide, pour moi, ne peut pas être dans le devoir. Dans ce que j'ai vécu, c'est pas possible. C'est pas juste. Une vraie aide est dans le don. Mais dans le don, dans la joie, dans le rayonnement, mais pas dans la culpabilité. Pour moi, la morale est un frein à cet échange-là. Très lourd. Parce qu'il ne prend pas en compte les réalités des cellules. Lorsque je caresse ma femme, que je la masse, je ne suis pas dans la morale. Je suis dans le physique, je suis dans la chair, je suis dans la terre, je suis dans la matière, mais dans une matière qui se transforme, dans une matière qui rayonne, dans une matière qui explose, dans une matière qui est gaie. Les gens autour de moi me disent « Comment ça se fait que votre femme sourit tout le temps ?» Mais parce qu'elle le vit différemment. Mes deux belles filles sont sur la route avec moi. Elles nous voient vivre. Et puis chacun prend ce qu'il a envie de prendre et laisse ce qui lui convient pas. Et dans les groupes de parole, oui, je partage. Parce que je ne crois pas du tout que la sinistrose va nourrir le courage. C'est la lumière qui nourrit le courage, c'est pas la sinistrose. Et cette lumière, elle demande un entretien. Je n'ai jamais caché qu'il y a des jours où je pleure beaucoup. Il y a des jours où je suis très triste. Mais de sentir cette vie-là, c'est un cadeau superbe. Pour moi, je rends grâce à la vie pour ça, oui, vraiment. Et mon seul souhait, c'est de pouvoir peu à peu aider à ce que chacun trouve cette voie-là, à sa manière. Il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de recette toute faite. Tous les cas sont différents. Tous les chemins sont différents. Et nous sommes bâtis de manière différente, déjà au niveau du corps, au niveau de notre chair. Donc, le reste suit. Mais nous n'arriverons pas à changer la politique, la société, etc., si nous ne faisons pas ce travail intérieur, ou nous ne pouvons pas faire l'économie de ça. Aucun média, aucune pensée philosophique ne remplace l'expérience. Si je ne suis pas traversé dans ma chair par l'expérience, la résonance que ça peut avoir chez les autres, elle n'existe pas. La résonance par la parole ne suffit pas, parce que je peux dire et je peux être différemment de ce que je dis. Ma parole n'a de sens et de justesse que si ce que je dis, c'est ce que je suis. Sinon, les gens écoutent, mais ne sont pas impactés. Ils sont impactés au niveau de leur mental. Mais c'est le vécu qui transmet l'énergie. C'est pas la parole. La parole, elle transmet l'énergie si elle est juste par rapport au vécu. Malheureusement, aujourd'hui, il y a beaucoup de paroles qui ne correspondent strictement à rien.
Écoutez plus fort sur www.cahier-personne.fr.